Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de la moto sur le 106,6 de Campus Lille ou www.campuslille.com. Au sommaire de cette émission, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec notre trio de motards engagés, Christophe Silmon pour le sommaire du motomagazine du mois de juin. Bonjour Christophe.
Bonjour la biche, bonjour à tous.
Ensuite, notre ami Jean-Yves Ballois de la Fédération Française des Motards en Colère.
Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Bonjour, et puis notre aussi ami de la Custom Culture, Daniel Torel.
Salut à tous, salut les amis IES, bonjour. Les amis IS.
Oui, voilà, très bien, il ne faut pas les oublier. Voilà.
Surtout pas.
Allez, au sommaire du mag, Christophe, on parle de BMW 1250GS qui va avoir fort à faire avec la concurrence.
Voilà, donc c'est la page de couverture, la GS menacée, hein, donc 40 ans.
Est-ce possible?
L'année dernière, c'est fêté les 40 ans.
Je pense que c'est la moto la plus aboutie en trail, la GS.
Absolument.
Un peu comme la Goldwing en routière. C'est aussi
la plus vendue, pas la plus aboutie.
On verra aussi.
Techniquement parlant.
Déjà, tu vois, là, il y a déjà une...
On fera peut-être une émission à part entière. Alors, je devais avoir Bernard, un pote là qui est déjà venu à l'antenne parler de sa GS, il en est à sa troisième, il vient d'acheter le dernier modèle. Malheureusement, bon, il est retenu par des obligations professionnelles. Et donc, par contre, dans les sujets qu'on abordera, donc la GS effectivement d'aujourd'hui, la 1250 GS par rapport à la concurrence, voir aussi comment elle est convoitée avec quelques chiffres sur les vols de motos, hein, et de scooters en particulier, parce que c'est aussi ceux-là qui sont les plus convoités. Et puis, Bernard donc, avait participé plusieurs raids privés avec Gérard Tilliette, qu'on aura le plaisir d'accueillir tout à l'heure, parce qu'un dossier donc, du mag de 377 de juin de Moto Magazine ce mois, c'est un dossier sur les voyagistes. Bah, on sait bien qu'il y a un peu plus d'un an, tout le monde s'est arrêté, les vols se sont arrêtés, le tourisme s'est arrêté, la planète s'est arrêtée.
Elle a failli commencer à tourner à l'envers.
Voilà. Et qu'est-ce que...
On l'a retenu.
Qu'est-ce qu'on fait tous ces voyagistes au long cours? On aura le témoignage de Gérard qui nous racontera comment il a passé, il nous expliquera ce qu'il faisait et comment il a passé cette année avec, bien sûr, les projets qu'il a pour relancer éventuellement son activité dans cette année. Autre sujet donc développé dans le mag de ce mois-ci, la rubrique consommateur, pour lequel je vais chercher toujours les petits accessoires utiles ou futiles. Hein, on en a parlé tout à l'heure hors antenne. Donc je vous ai dégoté des produits que j'ignorais, mais pour lesquels la pratique de la moto est rendue plus aisée. Alors, on était en train de parler du déconfinement. Ça fait un mois à peu près qu'on peut rouler. Donc on commence en plus avec les beaux jours, on commence à voir rouler. Alors nous rendre la vie plus facile, la circulation, ce sont les machines. C'est un spécial trail qui vous est proposé. Donc tu parlais de la 1200 GS. Mais Dan, on parlera de la panne America. Alors tu ne l'as pas encore essayé,
non.
Mais je pense que tu as quand même un avis sur le sujet parce que tu connais des gens qui l'ont pratiqué.
Tout à fait.
Et puis j'aime bien aussi parler des hommes et des femmes qui font la moto, donc portrait d'affichiste et par rapport justement à son regard qu'il a sur la moto et un parallèle avec l'imprimerie. On a déjà eu l'occasion d'en parler par rapport à l'impression du mag sur des machines où il y a une certaine analogie avec la moto ancienne dont on reparlera tout à l'heure. Voilà le programme de Moto Magazine.
Très bien, Jean-Yves, on va parler du compte-rendu du CA de la FFMC 59.
59, oui, justement.
Et les actions prévues également.
Les actions prévues et les actions qui ont déjà été effectuées. Parce que, si on ne le dit pas, les motards ne se rendent pas compte du boulot qu'il y a derrière. Et ça, c'est bien dommage. Je parlerai aussi des reprises de guidons, parce que, justement, on constate déjà qu'il y a une perte d'excité sur les routes. Alors, c'est bien joli de reprendre la bécane, mais de toute façon, vos habitudes se sont rouillées. Il ne faut pas croire que vous pouvez péter plus haut de votre cutre plus longtemps, parce que ça finira par le payer avec votre peau. Donc, je parlerai du concept de reprise de guidon. Et justement, j'en ai participé à une samedi dernier. Et dimanche 6 juin, il y a la FFMC qui fait une reprise de guidon ici. Alors, ça sera peut-être un peu court pour vous, mais enfin, allez faire un tour sur le centre d'examen des permis de Lausanne. Ça vous donnera une idée de du dérouillage de votre conduite.
C'est juste, enfin pour quand même pour aller jusqu'au bout de l'information, c'est juste en face du circuit de la montagne de fer, hein, circuit,
ouais,
moto,
exactement.
Juste en face, important.
En face du parking qui sert à rien, qui
voilà.
Coûte la peau du cul et...
voire même plus.
Oui, et des couilles.
Très bien, merci Jean-Yves. Daniel, alors là, attention, on va on va revenir. L'aftermarket, un bon plan aux marges confortables pour la marque. Et qui est gagnant dans l'histoire ?
Mais oui, alors il y a Christophe qui fait effectivement sa rubrique sur les comment dire, des ovnis, ce que j'appelle des objets non pas volants, mais peut-être de voleurs pour la moto. Et donc là, moi, j'ai fait, le mois dernier, j'avais fait une analyse, j'ai construit ma moto en prenant tous les composants pour construire ma moto.
On se souvient.
Tu peux, voilà. Tu peux, ouais, préciser l'aftermarket, parce que tout le monde n'est pas, ouais, fait...
Excuse-moi. Alors l'aftermarket, c'est tout ce qui est en dehors de l'achat de la moto proprement parlée, c'est-à-dire les casques, les blousons, les gants, les chaussettes, les slips, les soutiens-gorge, j'en passe des meilleurs. Et ce qui est assez étonnant, c'est que...
Harley, il fait beaucoup de...
Ah, mais tout
pour les biberons, mais, et même des...
Ah non, mais...
Des bavoirs, hein, aussi, Harley Davidson.
Oui,
hein,
oui, t'as même des...
Ça va jusque...
T'as même des chaises, des chaises pour les gamins, donc c'est ahurissant.
Des couches jetables.
Non, mais les couches, elles, en général, sont sur les motos. Non, non, j'ai fait une étude, comme j'ai faite pour la moto, et j'ai décortiqué ce qu'on appelle, nous, enfin, un vieux réflexe, ce qu'on appelle le PRI, le prix de revient industriel. Et donc, j'ai pris les produits de marque, toutes marques confondues, pas que les marques américaines, et des marques de spécialistes pour qui c'est le métier. Vous verrez que c'est assez étonnant, parce que soit, en d'autres termes, hein, et on va laisser un peu le message, soit vous devenez support d'une marque, mais là vous vous faites entuber deux fois, un, vous payez très cher, et deux, vous êtes porte-manteau de la marque, et vous n'êtes pas payé pour... promotionner la marque.
Embêtant de faire, ouais, de la pub pour la marque et de ne pas recevoir de...
Voilà.
Ou peu importe, mais en retour, quoi. Voilà. Je veux dire, je ne sais pas, quelque chose. Tout pas forcément de l'argent, mais je ne sais
pas. Tout le monde le fait avec Adidas et Nike. Tu vois des gamins qui se baladent avec un t-shirt Flight Emirates. Ils n'ont jamais mis
c'est
le cul dans un avion.
C'est ça le mystère de la marque.
Voilà.
C'est ça le mystère de la marque.
C'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'image.
Le pouvoir de l'image.
C'est ce qu'on appelle le marketing.
Et le choc des photos.
Le marketing de frustration. Mais on reviendra. Pourquoi ? Parce que vous verrez, au niveau prix, c'est surréaliste.
Ah. Voilà. Bon, alors après, tu dis... la séquence de... C'est Avalanche de Custom en 2021.
Alors oui. Alors, est-ce que c'est dû... au problème de la répression accrue sur le deux roues, mais on n'a jamais vu autant de custom sortir, alors qu'Harley Davidson est dans dans un trou noir, oui. N'ayons pas peur des mots, moins 23% de vente au niveau
trou
mondial.
Noir. Alors là, il pourra pas s'échapper. Hein, là, si.
Non, mais là, c'est un vrai problème. Mais bon, vous verrez qu'ils sont en train de réagir avec les revivals, puisque en gros, tous les 6 mois, ils vont sortir un modèle historique, ils vont vendre plein pot. Enfin bon, ça, c'est autre chose. Mais Honda, Harley Davidson, Indian, Yamaha, j'en passe et des meilleurs, pour citer que celles-là, sortent des modèles assez étonnants. Alors, les prix, ça va de 8000 euros à très cher.
Là, ça compte pile.
Oui. Donc, on y reviendra parce que c'est véritablement... Alors, quel est l'effet ? Encore une fois, est-ce un effet induit de la répression active sur les deux roues ? Peut-être.
Très bien. Et on terminera avec l'info du Custom Village à Bercé, hein, rue du Bar.
Rue du Bar,
je me souviens.
Bah oui, c'est normal. Mais avec modération.
Voilà, très bien. Allez, on passe à notre premier morceau de musique et on se retrouve juste après. On salue quand même notre technicien, Laurent. Ok.
Cheap, baby, used to blame, but it's no use, baby.
Le sommaire du Moto Magazine de juin avec Christophe Tillman.
Alors, on va pas me taxer de parler tout le temps de la GS, mais il faut reconnaître que c'est quand même, tu l'as dit tout à l'heure, le modèle emblématique qu'on voit sur les routes partout. Là, ah oui, avec oui, le temps qu'il fait sur les routes de France et de Navarre, on va la voir circuler.
Je vais revenir, c'est quand même l'un des trails le plus abouti quand même, Jean-Yves. Vu le succès quand même.
Il faut déjà un certain gabarit pour pouvoir rouler.
Oui, alors par contre, il faut certainement être grand.
Déjà, donc j'appelle pas ça une moto aboutie, une moto accessible à tout le monde.
Dans tous les cas, le plus vendu.
C'est le plus vendu, c'est certain. Moi, je me souviens quand j'ai fait le Cap Nord, tu soulevais une pierre, il y avait un motard en GS qui sortait. Un motard allemand.
Congelé ?
Ah non, mais c'est un dingue. T'en voyais partout.
Permafrost.
C'est pas très original.
Moto convoitée. Ouais,
mais t'as fait le Cap Nord en quelle année ?
En 80.
Il se souvient plus.
La GS existait déjà.
L'aventure, tout le bazar.
81.
Ouais. Enfin, c'est les Dakar. Ça existe. C'est avec les Dakar.
Gérard Tillyette, qu'on aura tout à l'heure à l'antenne, pourra nous en parler. Alors, effectivement, la 1200 GS, elle est mise donc en présentation dans un comparatif avec les gros trails du moment. Hein, donc la Multistrada avec son V4 et les KTM de Super Adventure 1290. Et donc, cette moto, Bernard, dont je parlais tout à l'heure, un pote, vient d'en faire l'acquisition. Alors, c'est simple, lui, il change tous les 10 ans. Donc, il a eu la 1150 l'année 2000. Il a eu la 1200, encore refroidie par air, de 2010. Et là, il vient d'acquérir donc la 1250 GS, 138 chevaux. Alors, c'est amusant parce que dans le comparatif, c'est la moins puissante.
C'est à distribution variable.
Absolument. Mmh. Ouais. Donc avec un couple très bas, stable, efficace, bien protégé, parce que vu le prix du berlingot, le poids du berlingot, effectivement, elle est vite vers terre, hein, même à l'arrêt, pas en roulant, mais à l'arrêt. Donc elle est bien protégée, mieux carénée, sécurisante, progressive. Enfin, en gros, malgré la puissance supérieure, elle est plus douce à la conduite. Et pour un enduriste qu'est Bernard, il me faisait remarquer qu'avec son embrayage à bain d'huile, on pouvait faire, parce que lui, elle a un embrayage à bain d'huile, elle était beaucoup plus apte à l'enduro par rapport au patinage qu'on pouvait donc pratiquer dans la pratique de l'enduro. Donc voilà, il a 3000 km au compteur, comme tu l'as dit, un gros bébé. Justement, dans ce comparatif face à la Ducati et donc à la KTM, eh bien finalement, on voit que Ducati a réussi à placer en fait sa machine.
Ça avait 4,
et donc, elle sort sur les comparatifs.
Enfin, un V4 pour un trail quand même.
165 alors, chevaux, je crois.
Je reste un petit peu
plus que ça.
Pantois quand même.
Il faut noter aussi que dans leur comparatif, ils ont oublié la Triumph Explorer 1200.
Alors, effectivement, elle est citée dans le comparatif des machines les plus volées, puisqu'en fait, on vous donne les conseils dans de magazine concernant les machines alternatives, justement, à celles qui attirent de plus en plus les voleurs. Alors, attirer les voleurs pour la machine, mais pour les équipements de la machine, les pièces détachées. Et on revient à ton sujet, Dan. Parce qu'effectivement, sur la GS, la Mutuelle des Motards a alerté par rapport au vol des tablettes TFT couleur, qui sont les tableaux de bord. Deux coups de clé, les silencieux, on en parlait. Tous les équipements périphériques de la moto.
Les catalyseurs aussi, maintenant. Il y a une recrudescence
les rétro.
De catalyseurs.
Voilà. Et les scooters. Là, on devine pourquoi. Hein, parce que pour les gens malveillants, le scooter qui peut monter les escaliers, le XADV a détrôné, par exemple, le T-Max. Et oui, en matière de véhicule le plus volé, c'était jusqu'à présent le T-Max. Ouais, maintenant, c'est le XADV. Bon, donc pour revenir à la BM par rapport à la Multistrada Ducati et puis la KTM, la BM se distingue par son ergonomie, par la qualité de son éclairage, et là tu parlais des équipements adaptatifs, vraiment la trouvaille du siècle telle que le décrit Motomag dans son essai, par rapport au plan horizontal, quelle que soit l'inclinaison de la moto. Donc en fait, le faisceau d'éclairage reste horizontal. Par contre, la Ducati sort vainqueur du comparatif en matière de sonorité, parce que la BMW est bruyante, voire trop bruyante. là, dans sa livrée avec la Krapovic, c'était infernal. Et c'est quand même, pour une moto présentée en catalogue et donc dans un essai comparatif, c'est quand même étonnant. Hein, surtout que ça fait quand même deux mois qu'on parle de la sonorité des motos et de la pollution au bruit. Donc sonorité, ville, Ducati sort vainqueur, protection, duo. Alors que par nature, la BMW était plutôt un véhicule de duo, une moto de duo. Bah là, cette-ci, non. Le strapontin à l'arrière va certainement faire passer l'envie de faire de la moto en duo.
Et personnellement, j'ai un copain qui a une 1200, qui a une copine. Et le top case, la copine était vraiment collée à lui. Il a fallu que je fasse tout à fait un système pour pouvoir reculer un peu le top case, parce que sinon, là, c'était pas logeable à deux.
Mais alors, tu changes de copine.
Que reste-t-il à la BM ?
Elle peut pas faire un rime.
elle est grosse comme mon petit doigt, la copine.
J'ai pas osé le dire.
Non, justement.
Alors,
non,
c'était une blague. Hein,
oui.
Espèce de misogynisme.
Pas du tout. Observateur.
Je savais que ça allait.
Que reste-t-il à la BM ? Parce que je note que le freinage, c'est encore la Ducati qui est devant. Eh bien, je l'ai dit, son ergonomie, son moteur, son aptitude et sa polyvalence par rapport à la pratique GT. Hein, donc, effectivement, pour les gros rouleurs, bien sûr, sa transmission par arbre, puisqu'elle est la seule du comparatif à avoir cette transmission par arbre. Donc, on sent quand même que là, les Italiens ont fait fort. Hein, tempérament très sportif pour la KTM, mais ça a toujours été, hein, taillé au couteau. Ducati, là, ils ont un design des Italiennes qu'on connaît bien, et effectivement, l'intégration du V4 dans la machine aujourd'hui la rend particulièrement séduisante. Et là, vraiment, un vrai challenger par rapport à la BM, à la 1250. Donc, vous verrez également en matière de comparatif par rapport à l'entretien, et là, j'ai été super étonné, Ducati qui annonce une révision majeure tous les 60 000 km, donc il faut déjà en abattre du kilomètre pour y arriver.
La plupart des motards ne feront jamais ça.
Voilà. Hein. Alors que dans le même temps, les autres sont à 20 000. Et puis, vous compléterez en fait la vue du comparatif avec la présentation de ces trois machines.
Mais combien ça coûte ?
Alors, combien ça coûte ? Effectivement, aujourd'hui, le ticket, alors, il y a toujours un prix de base version standard.
Mais oui, ce qu'on appelle le prix d'appel, qui
exactement,
sert à rien.
Mais c'est pas le prix, effectivement, que paieront le client, parce que de toute façon, les packs sont quasiment indispensables. Et donc là, on peut dire que le ticket, il est à 25 000 euros et plus. Donc le pote là, il a payé plus de 26 000 euros, donc avec tout bardé de tous ces packs d'options pour la BM. Ceci dit, la Ducati n'est pas en reste, hein, elle est au même prix.
Ils sont tous pareils.
Et le KTM est un peu en retrait d'environ 3 000 euros. Mais on reste effectivement dans un prix premium avec pour des puissances. Alors tout à l'heure, je vous parlais de la puissance que Bernard jugeait quand même importante de 138 chevaux pour la BMW. Mais sur la Ducati, on est à 170 chevaux. Et 160 sur la KTM.
Alors ça en tout donc, terrain, 170 chevaux en tout terrain, bien du plaisir.
Bien sûr.
Là tu le pneu en 300 bornes.
C'est un débat qu'on avait déjà eu, dont on reparlera tout à l'heure dans la présentation du portrait de Lorenzo, parce qu'effectivement c'est toute cette démarche-là, pour prendre du plaisir à moto, et ça me permet de parler du rassemblement de ce dimanche à Seclin des motos de caractère. On verra pas de machine 250 chevaux, je pense.
Je sais pas. Écoutez, on verra bien.
J'irai faire un tour.
Oui, heureusement, vraiment 180 chevaux pour un trail. Est-ce que vraiment c'est nécessaire ? Alors ça, on va revenir un petit peu dans le futile, utile.
On a Jean-Yves qui
pourra l'exploiter,
qui
surtout.
Effectivement,
et puis l'exploiter, effectivement, il faut vraiment avoir
un tour sur le couple des motos et effectivement la qualité de conduite et de plaisir de conduite qu'on peut avoir en conduisant sur le couple.
C'est-à-dire qu'il y a des pilotes de compétition qui effectivement ont une forme physique à toute épreuve, Mais le Pékin moyen, il est strictement incapable de maîtriser des puissances pareilles.
Même la moitié.
Même la moitié, surtout sur des terrains.
Surtout que je rappelle qu'en route ouverte aujourd'hui, avec les limitations de vitesse, ça profite pour terminer le sujet sur l'édito de Pierre Orluc concernant la recrudescence aujourd'hui des voitures radars privées qui vont circuler sur nos routes, puisqu'il nous annonce un chiffre.
Oui.
Elles étaient à test dans quelques départements, mais à la fin de l'année, elles seront 220 sur le territoire et 450 à la fin de l'année 2023.
Alors, il y a des élections qui arrivent, souvenez-vous-en.
Oui. Il y en a une qui est sur Lille et le périph' en test depuis quelques mois déjà.
C'est quoi ? Il faudra nous dire un peu la marque, la voiture.
Opel Zafira, si je ne m'abuse. Gris métal.
Ah. Ouais,
elle est en test.
Donc il faut la démonter alors.
Bah, c'est pas...
Moi, je pense qu'on va faire un test, tu démontes.
C'est vrai. On fera une émission spéciale sur ces voitures-là. Hein.
Oui, ce serait bien.
Ça va être bien, ça.
Et pour terminer, Jean-Yves, une bonne parole de la FFMC que nous rapporte Pierre. Avec la sécurité rentière, c'est toujours gaz en grand vers plus de privatisation des recettes à fond.
Voilà, exactement.
Alors, j'avais vu ça au sujet de cette voiture-là. À Angers, le radar embarqué de la police flash 102 voitures en excès de vitesse. En une heure, 102 voitures en excès de vitesse. Alors, ça peut aller de 5 km/h à. On ne sait pas. Voilà. Et pas de peau pour les policiers qui étaient à son bord. La prime au rendement n'est donnée qu'à partir de 110 à l'heure. Donc là, ils étaient contents. On a fait plus de 100, donc on va avoir la petite prime en plus. Eh ben non, c'est 110. Donc alors, ils se disent, bon, chef, c'est pas grave, on y retourne, et on va faire le reste.
Oui, parce que encore une fois, il n'y a pas que la vitesse. Il y a la ceinture de sécurité, le fait de regarder avec son téléphone, écouter la radio, manger.
Le fait de cloper.
Voilà, fumer, manger.
Ah bon ?
Oui, le coude.
Ah, tout ça devient interdit.
Le coude à la porte.
Non.
Oui.
Non, c'est pas vrai.
Si. Si, je t'assure.
Bon, ben écoute, on passe un morceau de musique et puis on reviendra pas sur le sujet.
Non, on va parler voyage.
Voilà.
Go and leave me, 'cause I can't take it anymore.
Le rendez-vous de la moto et des motards, c'est sur Campus tous les dimanches à partir de 11h. Et au téléphone aujourd'hui, nous avons Gérard Tilliette. Allô ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Tu es à l'autre bout du fil. Alors Gérard, nous te connaissons par l'intermédiaire d'un pote, Bernard, qui a participé à plusieurs raids privés que tu as organisés. Et donc, ça m'intéressait d'avoir un peu ton écho par rapport au dossier des voyagistes à moto frappés par la crise du Covid. Alors, tu peux nous présenter quelle est ton activité dans le monde d'avant, jusqu'au début 2020. Qu'est-ce que tu faisais ?
Eh bien, en fait, c'est à la suite de plusieurs participations au Paris-Dakar que je me suis lancé avec l'âge, dirons-nous, dans l'organisation de raids, de petits raids, essentiellement sur le Maroc au départ, puisque c'était une destination qui n'est pas trop lointaine, qui est très dépaysante néanmoins, avec un peuple marocain tellement accueillant.
Voilà. Tu as combien agréable. Alors, quand tu rappelles du Dakar, on parle bien du Dakar africain.
Oui, voilà.
Et tu en as combien au compteur ? Tu les comptes plus ?
J'ai participé à 4 éditions dans les années 80, 83, 84, 85, 86, jusqu'à la mort de Thierry, Sabine. Et je suis ensuite rentré dans l'organisation, après, parce que j'ai quand même eu deux gros accidents au cours de ces 4 épreuves. Et en fait, mon patron à l'époque, à qui je demandais simplement 3 semaines de congé, me voyait revenir au bout de 4 mois, puisque bon, c'était des fractures de jambes, des choses comme ça.
D'accord.
Donc, il a décidé de ne plus m'accorder de vacances.
Et quand as-tu développé tes raids privés alors ? Et explique-nous un petit peu comment tu les conçois.
Eh bien, en fait, à la base, on est parti sur le Maroc parce qu'en fait, comme je le disais, c'est une destination qui n'est pas lointaine, 3 heures d'avion. Et je suis parti avec ma femme et mes enfants, faire des repérages, des reconnaissances. Et on a organisé une première édition il y a maintenant 22 ans, hein, pour les copains. Au départ, c'était pour les copains de Calais, mon groupe de Calaisiens là, avec lesquels je fais de la moto. Et donc, on est parti sur la base d'un séjour d'une semaine, enfin d'une randonnée d'une semaine, au départ de Ouarzazate et retour.
D'accord. Juste avant, on avait une séquence où on a beaucoup parlé de la 1250 GS, puisque ça fait partie de la page de couvre de Moto Magazine du mois. Et donc, je sais que parmi les pratiquants qui t'accompagnent dans ces raids, il y a beaucoup de GS, mais il n'y a pas que. Hein. Donc, tu fais des groupes de combien de personnes ?
Eh bien, ça dépend. En fait, si c'est de la moto enduro, ça peut être 14. Si c'est de la BM, autre gros trail, je suis limité en poids pour emmener tout ça, à savoir que j'emmène à ce moment-là 8 BMW, avec la mienne ça fait 9. Et en fait, le groupe est de... Bon, si les pilotes sont en binôme, ça fait 15 ou 16 personnes. Quoi.
D'accord.
Sinon, en enduro, on roule à 14 motards maximum.
Alors, avec 16 mars 2020. Tout s'arrête, les avions sont au sol, nous sommes confinés, bah toi aussi, par la même occasion. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Tu accuses le coup, tu réfléchis, tu faisais combien de sorties par an ?
Une ? Les bonnes années, 6 ou 7 au Maroc.
Oui, effectivement.
Donc, effectivement, quand c'est arrivé, eh bien, évidemment, on avait des groupes de prévus. J'ai commencé par téléphoner à toutes les hébergements que j'avais réservés pour leur dire qu'on ne viendrait pas. Ils s'en doutaient, bien sûr, mais je les ai quand même avertis en leur disant qu'on reportait à plus tard.
D'accord, sans échéance connue, effectivement.
Ouais.
Et un an après... Comment tu as pris un virage ou tu as mis ça en stand-by et tu attends de voir le vent passer ?
Par obligation, on a mis ça en stand-by. Bon, ça nous a pas empêché quand même d'aller faire un petit peu de moto, enfin, discrètement chez nous, sur nos pistes, en France, quoi dirais-je. Et puis, j'ai reporté tout, là en l'occurrence, en octobre prochain, là en octobre de cette année. J'avais deux groupes de prévus en octobre 2020, on n'a pas pu s'y rendre. Donc, ils vont venir cette année en 2021, au mois d'octobre. Et puis, il y a un groupe du mois de mars aussi, cette année, que je devais faire en mars, que je n'ai pas pu faire. Donc,
d'accord.
Ce sera aussi pour octobre.
Tu as une clientèle fidèle qui te suit ?
Oui, c'est comme on dit du bouche à oreille, à savoir que moi je fais ça uniquement en compagnie de mon épouse, hein, à savoir petite organisation, hein, on se prend pas la tête. Et
d'accord.
Puis ce que j'ai envie d'avoir, c'est des motards sympathiques.
Alors, on rappelle que tu es un régional de l'étape, hein, puisque tu es installé dans le Pas-de-Calais, enfin près sur la côte littorale, et qu'effectivement, tu es petit par rapport au dossier de présentation dans Motomag, là où on nous présente donc les grosses unités qui font des voyages à l'international et qui se sont recentrées justement en essayant d'aller trouver de nouvelles niches. Avec la formation, par exemple, parce que en ce qui te concerne, tu accompagnes des gens qui ont une bonne pratique de l'enduro.
Oui,
tu leur fais découvrir des terrains joueurs.
En tout cas, qu'ils aient quand même une petite expérience. Hein. Mais je me suis toujours engagé à même quelqu'un qui. En fait, on adapte évidemment hein, en fonction de du groupe que j'ai. J'essaye de connaître un petit peu quelles sont leurs références, entre guillemets, et j'adapte dans ce cas-là le parcours. Il s'agit de. L'objectif étant que les mecs se fassent plaisir, quoi.
D'accord.
Et pas de se faire mal.
Donc là tu disais dans le programme 2021, un raid prévu en automne. Tu as fait le plein ?
En octobre, deux qui sont pleins, deux qui sont reportés déjà depuis plus d'un an. Ouais.
D'accord.
À cause de la pandémie.
Et tu changes pas tu changes pas la formule. C'est une formule.
Non, il nous est arrivé quand même d'aller voir d'autres pays. J'ai organisé une année en Mauritanie, une année également en Égypte, et ça c'était fabuleux. Mais d'une part, l'Égypte, on peut plus s'y rendre maintenant. Le désert est interdit. Et la Mauritanie, c'est pareil, quoi. C'est loin d'être sécurisé, quoi. Donc, ça serait pas prudent d'emmener des groupes en ce moment dans ces pays-là.
D'accord.
Et donc, effectivement, pour l'instant, c'est le Maroc. Quoi.
Bon.
On reste sur le Maroc, mais moi, j'en suis pas là du tout. Au contraire, quoi. Moi, je me fais toujours un plaisir de me rendre là-bas et de rencontrer les hôteliers marocains, qui sont d'ailleurs très compétents quoi, dans ce qu'ils nous font, dans les bivouacs et tout ça. Il n'y a jamais de problème,
donc
jamais de soucis.
Sur ce marché du voyage, pour ton activité, tu es confiant sur l'avenir, les protections, les mesures sanitaires ne sont pas un frein à l'organisation de tes sorties ?
Je pense que il faut être optimiste hein, et que ça va se régler. maintenant, il est probable que certains pays ce soit plus délicat que d'autres. Hein. Ça, l'avenir nous le dira, mais
okay.
C'est encore une année. Cette année est encore une année quand même avec des points d'interrogation. Après, on verra comment ça va évoluer tout ça.
Bon, si nos auditeurs sont intéressés par tes productions, tes propositions, ouais. Comment ils peuvent te contacter ?
Ils peuvent m'appeler par téléphone, hein, sur le téléphone que je vais bien donner.
Alors vas-y, on t'écoute.
Le 06 07 49 89 45.
Redonne-le.
Tout simplement, m'envoyer un petit message sur mon adresse mail.
Voilà.
gerardkidiette@gmail.com.
Avec deux I et deux L. Hein, deux L entre les deux I.
Exactement.
Voilà, parce que ce n'est pas toujours évident à la prononciation. Donc merci Gérard. Écoute, on te souhaite bonne découverte, redécouverte du Maroc, hein, puisque c'est ta prochaine destination. Et puis on sera toujours heureux d'avoir des nouvelles avec plaisir. Mais bon, je suis en contact avec Bernard. Alors je ne sais pas si Bernard est inscrit sur la prochaine liste des partants, j'imagine.
Il est inscrit sur 2022 déjà.
Voilà. Merci. Et puis j'invite donc tous les auditeurs à retrouver le dossier voyagiste donc moto frappé par la crise du Covid, avec toutes les propositions et les organisations qu'ont mis en place ces voyagistes pendant la période de crise sanitaire et au sortir de cette crise pour proposer toujours plus de plaisir à aller rouler sur les routes du monde. Merci Gérard.
Mais c'est moi qui vous remercie.
À bientôt.
Excellente journée. Au revoir.
Le magazine de la moto tous les dimanches à partir de 11h, c'est sur Campus, 106,6 de Radio Campus Lille. Alors le spécial aujourd'hui, sommaire du Moto Magazine avec Christophe, on va parler de Lorenzo Affichiste.
Eh oui. Alors, faut que j'y reprenne mes esprits. Hein. Lorenzo Affichiste. Alors, effectivement, vous vous souvenez qu'on avait parlé il y a quelques mois d'une machine, et pas une machine infernale, hein, une imprimerie, mais qui avait une certaine analogie par rapport aux motos de caractère, par rapport à la caractéristique des équipements qui la faisaient fonctionner. Et donc, Lorenzo Affichiste renoue un petit peu avec la rubrique rencontres et portraits qu'avait déjà initié Moto Magazine il y a plusieurs années. Et donc, une interview qui est consacrée au créateur en fait, d'affiches. Alors, ces affiches, vous les avez certainement vues passer. La Beach Race, c'était la course donc d'ancienne sur la plage de Ouistreham au mois de septembre. Et c'était, je vous rappelle, à l'époque, il n'y avait rien qui se passait. Et là, ils avaient obtenu effectivement un accord pour pouvoir, une dérogation en quelque sorte, pour pouvoir réaliser cette course de démonstration, on va dire. Et donc, Lorenzo Affichiste nous présente un petit peu son parcours motocycliste. Il nous raconte, par exemple, comment il a goûté à la moto quand il était gamin. En funérailles familiales, il voit arriver un personnage complètement fantomatique, en cuir, nuage de fumée, bruit d'enfer sur une BM R69S. Et c'était en opposition complète avec les personnes de l'assistance plutôt bourgeoise. Et c'était le frère de son grand-père. Et ça a été une révélation pour lui de goûter en fait à la moto ancienne, à la moto de caractère. Et donc justement, on avait une discussion tout à l'heure par rapport à cette puissance toujours plus, et ces équipements technologiques toujours plus, hein, des motos où on arrive pratiquement aux 200 chevaux. Il dit, mais pourquoi 200 chevaux quand 70 t'apporte déjà tant de plaisir? L'hérésie absolue, le régulateur de vitesse. Puisqu'il y a effectivement dans la pratique de la moto, entre son pilote et la poignée de gaz et l'allure, les émotions qui passent, je dirais, par la conduite et le pilotage de la moto. Et donc, il passe en revue, c'est pareil, il peste contre les GPS, quoi de mieux que naviguer à la carte par rapport au... Oh, alors la miche, qu'est-ce que t'en penses,
hein, un GPS, c'est bien aussi.
Et oui. Alors ça fait débat, parce que c'est pareil.
Oui, j'ai lu le passage.
Dans la randonnée, c'est pareil, hein, qu'elle soit à pied ou en vélo.
L'hérésie absolue, hein, c'est le cruise control, régulateur de vitesse. Je ne vois pas comment on peut désirer bloquer électroniquement l'accélérateur du moto si c'est là ton désir. Prends le train.
Voilà. Et donc, pour lui, donc là, je me tourne vers Dan, de simples arguments marketing en déconnexion totale avec le monde réel. Voilà, ça c'est les affirmations.
Quelque part, c'est vrai qu'on est un peu OK avec ses idées.
Hein. Oui, mais d'autant plus que quand il dit, très honnêtement, que la moto est un objet érotique, purement sensuel. Voilà quelqu'un qui a tout compris le sens même de la moto.
Parmi nous ici, aujourd'hui, parmi nous, on a quelqu'un qui vient d'acheter. Et pourtant, il a juré il y a quelques années de jamais l'acheter, cette moto.
Moi, je le connais.
C'est vrai.
Je veux pas capter, mais je le connais.
On témoigne. On aurait dû retrouver ses paroles dans notre banque de données.
C'est enregistré.
C'était enregistré. Et pourtant, il l'a acheté. Il a acheté quoi, cette fameuse Rocket 3, la nouvelle?
Celle de Kéké, tout en plastoc.
Il avait traité de moto en plastique. C'est moi, je me souviens, Daniel. Et il avait dit, jamais j'achèterai ça.
J'arrive sous la table.
Alors, parce que c'est un fanatique de Rocket, hein, tout le temps je parle de moto. Hein,
Justement,
il avait l'ancienne et il a encore l'ancienne, il n'a pas envie.
Prendra 4 ou 5 mois pour faire de cette GT une vraie GT.
Et là, il a acheté la nouvelle, qu'il s'était pourtant juré de ne pas l'acheter.
Moto de Kéké.
Et on l'a vu arriver tout à l'heure. Voilà. Et je lui ai dit, ça va, au niveau de toutes les commandes, de tout ce qu'il peut y avoir maintenant hein, sur une moto hein. Il dit, pour l'instant, je ne suis pas encore vraiment au parfum, mais il faut que je m'y mette.
Genre, oui, déjà pour couper le contact,
ça... Il me dit, regarde, je vais m'éloigner de la moto, elle va s'arrêter toute seule. Et en fait, il s'est éloigné, et la moto continue à tourner sur sa béquille, et il dit, ah bon, bah, je crois que je dois encore peaufiner le manuel.
Le manuel du propriétaire. Non, mais c'est un excellent moteur qui a été maltraité par Triumph, qui en a fait un café rasseur. Pas ma conception de la moto.
Mais c'est une moto de bobo.
Non, mais une fois qu'elle sera faite à mon goût, ça me prendra 4-5 mois, mais ça sera une vraie jetée.
Voilà, donc là,
il va la défigurer.
C'est un mixte entre ce que Dan vous évoquait.
On va revenir sur Lorenzo.
Donc, effectivement, ouais. Il ne fait pas sa moto lui-même, mais presque.
Presque.
Eh bien, bienvenue dans l'univers du custom. Hein.
Voilà. Il y a longtemps que je fabrique des motos.
Faudra que tu nous dises un peu tes impressions. Tu es encore en rodage aussi, Jean-Yves.
Je suis encore en rodage. Et puis, je viens juste de finir l'inversion des commandes.
Ah oui, parce que toi, il faut que tu roules à l'anglaise.
Je roule premier en haut, tout le reste en bas.
Oui, alors, c'est pas que tu t'inverses les commandes. Donc, ton sélecteur, il est à droite. Mais en plus, tu mets la première en haut.
Alors, voilà, exactement.
On pourrait qualifier Lorenzo, donc affichiste, de passéiste, mais lui se qualifie plutôt d'anti-moderne. Ouais. Hein, et donc, pour lui, confier le contrôle de nos motos à cette électronique, c'est grignoter un peu de notre liberté.
Exactement.
Et donc c'est une thématique. Nous rêvions de liberté qu'on retrouve dans le dossier voyagiste, qu'on retrouve dans le quartier libre.
Ça fait penser à un bouquin, ça.
Dans Ilovenbrook. Nous rêvions tous de liberté.
Alors, je vous le conseille, celui-là.
Oui, moi aussi. Mais
c'est ce qui fait le succès des Royal Enfield. Hein. Voilà. Les gens s'aperçoivent que finalement, toute cette technologie, on peut très bien vivre sans.
Alors,
et beaucoup mieux.
Jean-Yves, tu me donnes une excellente perche pour effectivement parler de la rubrique consommotard, parce que tu parles de Royal Enfield, et donc il se trouve que justement parmi les journalistes de Moto Magazine.
Il y a l'essai du booster.
Exactement.
C'est une arnaque. Mais alors, à 180 euros, c'est une arnaque.
Moi, j'ai pas vu là. Le
alors,
booster,
page 124.
Ah, j'y vais tout de suite.
Donc, c'est 124. C'est Axel, donc le chef des essais chez Moto Magazine, qui voit exactement la même analyse que toi par rapport à ce produit. Ah, oui. Alors, ça ressemble un peu à un stéthoscope. C'est assez curieux quand on le voit comme ça.
Non. En fait, c'est juste une résistance ou une thermistance, je ne sais pas exactement, je n'ai pas acheté le truc, qui permet de faire croire au calculateur que l'air admis est beaucoup plus chaud.
Voilà, alors on connecte ça sur le faisceau d'origine.
Beaucoup plus froid. Et donc, le but ultime, c'est d'injecter un peu plus de carburant. Donc, au lieu de rouler pauvre, comme maintenant la législation l'oblige tous les constructeurs, les moteurs roulent plus pauvres, donc ils chauffent plus, ils souffrent plus. Et donc là, ça fait admettre plus d'essence, donc la bécane réagit de façon plus conventionnelle, disons, à la façon des carbus.
Tu consommes plus aussi, alors.
Tu consommes plus.
Et
ça,
normalement,
ils omettent de le dire. C'est ça qui est dégueulasse.
Effectivement, mais n'empêche que Axel, qui était
mitigé,
il est content.
C'est normal.
Ils veulent garder.
Oui, parce que c'est normal à partir du moment où
t'enrichis le moteur.
T'enrichis le rapport air sur fuel.
Donc finalement, c'est un trompeur qui trompe son monde.
Qui trompe son monde, oui, mais c'est vrai que la bécane, par contre, peut être plus agréable.
Alors ça fonctionne, et à mi-régime, la moto est plus onctueuse.
Ah oui, ce qui est logique.
Elle reprend mieux, bien mieux dans les sorties de courbe, et elle est montée en régime.
Pour 180 euros une résistance, je trouve que c'est cher.
Bon, alors justement, à contrario, et pour répondre à Dan tout à l'heure, puisqu'on parlait du prix des équipements moto, là je t'ai trouvé un équipement à 1 euro.
Bah oui.
Quand même, c'est quand même pas mal, hein. Je peux pas faire à moins. Hein. Et donc là...
C'est très bien, parce que tu vas concurrencer toutes nos opérations à 1 euro qu'on fait dans tous nos hypermarchés.
Voilà. Alors, attention, ouvrez bien grand vos oreilles. Fini le régulateur de vitesse. Hein, on l'a dit tout à l'heure. L'émotion, elle passe
qui tombe
par la poignée de gaz. Voilà. Effectivement. Mais quand vous êtes sur l'autoroute ou à vitesse stabilisée...
Et puis au bout de 5 heures de route, comme ça, tu peux avoir mal
On appelle ça des régulateurs d'allure. Et donc, vous avez un comparatif de quatre équipements de régulateurs d'allure sous forme de molettes, de manettes, de pinces ou de palettes. Et la palette qui commence à 1 euro. Alors bon, oui, c'est un site chinois, là on va pouvoir encore discuter. Mais enfin, n'empêche que ça fait le boulot.
Et vraiment, quand tu as des problèmes de poignet ou autre, c'est très efficace la palette.
Alors, si vous êtes Jean-Yves, vous le faites vous-même.
Hein. Voilà. J'ai fait un truc qui en déclenche avec le frein avant. Dès que je freine, ça libère.
Ah oui, mais Jean-Yves, il fait tout. Hein.
Voilà.
Il fait tout lui-même. C'est...
Et alors, je terminerai donc cette rubrique consommotard par une évolution un petit peu technique, mais je trouve quand même assez astucieuse. Il y a aussi la tendance, vous voyez, un blouson. Fini les trucs fluo, parce qu'on a eu toute une période où on mettait du fluo jaune là, dans les blousons. Donc maintenant, on vous fait des inserts chinés qui sont rétro-réfléchissants. Donc blousons, chaussures. On a l'impression que c'est un défilé de mode là. Hein, vous avez l'éclairage automatique du top case quand vous ouvrez le top case.
Bon.
Accessoire utile ou utile ?
Bon. Quand tu es perdu dans la campagne auvergnate et que tu dois acheter.
Toujours une lampe de poche avec toi, Jean-Yves.
Ou ton téléphone.
Oui,
oui, exactement.
Et puis moi, mon téléphone, il téléphone, c'est tout.
Les rétro-réfléchissants,
sans s'en douter.
je rappelle, si vous achetez un casque à l'étranger, en Allemagne par exemple, il n'est pas homologué en France parce qu'il n'a pas les rétro-réfléchissants, vous devez les rajouter. Et donc, si vous voulez rajouter, souvent ils sont blancs. Et bien là, vous avez des rétro-réfléchissants noirs homologués que vous pouvez rajouter sur le casque. Vous avez ici un cuir, alors ça va parler au kikinkou, un cuir pour femme avec un Elston chair avec une tête de mort sur le bras et qui est constitué, même chose, chiné avec des petits dessins de moto. Bon, futile ou utile ?
Là, on est plutôt féminin.
C'est de la mode.
On va encore être taxé.
C'est pas un accessoire qui modifie quelque chose à ta conduite.
C'est ton visuel. Il existe le même phénomène chez les garçons. Hein, faut pas croire. Les mecs, le jaune.
Oui, mais là je présente la rubrique. Donc, effectivement. Et puis, pour terminer, l'affichage tête haute. Il se trouve qu'on a un de nos adhérents qui en possède un. Donc là, c'était vraiment le modèle des DC. Là, il y a une. Qui avait d'ailleurs à l'époque été un peu critiqué par Moto Magazine. Donc ici, c'est une deuxième version qui semble un peu mieux aboutie. Et donc, l'affichage tête haute, Eyes Lights.
Là, on peut aussi discuter. Est-ce que vraiment c'est utile ou futile d'avoir les informations juste à la hauteur de tes yeux
au ras du front.
Dans l'angle de vision, en fait. Hein, ouais. Alors, dans une moindre mesure, moi, je pratique la randonnée à vélo avec un rétroviseur exactement à la même position que cet affichage tête haute. Je dois reconnaître que c'est pas mal de toujours avoir l'information. Alors là, c'est de la rétrovision, mais sans avoir à détourner le regard sur donc là, même chose, rétrovision possible, affichage tête haute. Donc, c'est en cours de test, mais ça semble un produit.
Disons que l'avantage, c'est que si ça tombe en panne, ça ne pénalise pas trop. alors que l'ABS sur angle, si ça tombe en panne,
Tu te plantes.
Ça peut être très dangereux.
Oui. Alors, justement, puisqu'on parle des informations là, qu'on peut avoir sur cet affichage tête haute, c'est notamment le GPS, il faut reconnaître, et Jean-Yves, je sais que toi, tu as adapté ton GPS avec des pare-soleil, parce qu'il n'y a rien de plus pénible de se trouver en plein soleil et de ne pas pouvoir lire l'information.
Et même sur les TFT, les écrans TFT, hein, plein soleil.
Justement.
Tu vois plus rien, tu vois pas l'allure où tu roules, la vitesse, plus si t'as encore de l'essence, tu vois plus si il y a quelque chose qui va pas sur ton écran.
Petit stage chez Jean-Yves pour mettre un pare-soleil pour lire les tablettes TFT. Il va y avoir la queue.
Et pour quand même, Google a sorti des lunettes avec toute l'information, GPS et compagnie dedans, faut pas l'oublier, ça fait 5 ans.
Mais le problème, c'est que t'as un écran TFT qui a sa taille. Mais tu as une foultitude d'indications dessus. Si tu veux tout lire,
Tu te plantes.
Tu restes 5 minutes sans regarder la route.
Voilà. Et on a fini
Mais je laisse les espaces de parole à Dan parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Non, mais je veux bien partager.
Malheureusement, il y avait encore plein d'autres sujets justement sur le Super Dupont qui vont traverser.
Oui,
En mobilette.
Avec une bleue. Hein,
les rendez-vous chaque vendredi.
Route 66.
En bleu, voilà.
Des apéros de motomag. Comme disait Jean-Yves, parce qu'il y a toujours la technique, puis les mécaniciens. Comment ils vont faire pour avoir le mélange
Ils ont un an pour le préparer. Ils emmènent une remorque, donc je pense qu'ils auront le mélange dans la remorque.
Est-ce qu'on a le droit d'enlever avec une remorque aux USA
Avec de l'essence, non.
Ah, oh, désolé. Non, c'est de l'huile. C'est de l'huile de temps.
Oui.
Qui t'emballera sur l'huile de temps.
L'huile.
Parce que t'as pas le droit de transporter.
Oh. Oui. Oh, là, là. Bon, bah écoute.
Et puis, vous avez.
On va essayer de les suivre.
Vous avez aussi l'interview du patron de Yamaha France, Europe, pardon, qui explique tous les retards de livraison. Donc, ceux qui
veulent. Surtout la 700 Ténéré qui est construite à.
Absolument.
À Saint-Quentin. Hein.
Voilà, ils ont dû faire venir des pièces par avion. Oui. Parce que les containers, ça bouchonnait sur les eaux.
Et dans le canal, ils étaient bloqués.
Ils ont 2 mois de moto sur les eaux. Oui. Donc ils ont pris 2 mois de retard. Donc les MT-09, les traceurs arrivent. Soyez patients.
Bon, très bien. On peut passer un morceau de musique pour se décontracter les oreilles, Christophe.
On va s'apaiser un peu.
Bon, d'accord, et on se retrouve juste après.
We'll be right back. about your Madison shoes. We got a thing we call the Madison Blues. We do the Madison Blues. We do the Madison Blues. We do the Madison Blues, baby. Rock away your blues.
Alors l'info moto, c'est sur Campus 106,6 et c'est tous les dimanches à partir de 11h. Voilà. Maintenant, nous avons rendez-vous avec Jean-Yves Ballois de la Fédération française des motards en colère.
Qui va vous parler de reprise de guidon. Alors, pour le motard jeune, sûr de lui, il a tendance à croire que la reprise de guidon, c'est un truc...
qui sert à rien.
Qui sert à rien. En fait, ça sert énormément parce que nous, on le constate à la FDM, il arrive des mecs sur des motos hors de prix et ils ont peur sur leur moto. Alors, on ne comprend pas bien le truc parce que le mec, il s'achète une moto pour se faire plaisir, mais en fait, en roulant, il a peur. Il a peur parce qu'il n'a pas la technique ou qu'il l'a oublié, qu'il y a longtemps qu'il l'a pu pratiquer. Et une reprise du guidon, c'est... je pourrais faire une analogie un peu scabreuse. C'est le naufragé solitaire qui, sur une île déserte, qui n'a pas vu de femme pendant X années, et qui brusquement arrive dans une grande ville et puis assouvit ses vrais instincts d'une manière absolument catastrophique.
Les oreilles prudes.
Voilà. Bon, non, je suis resté très chaste dans mes propos.
C'est une analogie. De, donc, voilà, quoi.
C'est pour dire que.
Moi, je veux bien faire de la prise de guidon aussi. Hein.
Enfin, bref. Donc, j'ai fait, dans le cadre de la FDM, là, j'ai ma casquette à FDM, donc l'Association pour la formation des motards, à la DDTM. Au centre donc, d'examen de permis de Lezenne, une reprise de guidon. Et ce qui était très attristant, c'est de voir qu'il n'y avait que 18 motards intéressés, alors que c'est complètement gratuit, qui avaient la chance de gagner 3 gilets airbags et 3 paires de gants. Donc il y avait 6 lots à gagner sur les 18 participants. Ouais. Donc chaque participant avait une chance sur 3 de revenir avec quelque chose.
C'est mieux que l'auto.
Est-ce qu'il, a eu beaucoup de communication qui a été faite là-dessus?
Alors, très honnêtement.
Parce que moi, j'étais même pas au courant.
Moi non plus. Et on a un peu plus de 200 membres au Custom Village. Honnêtement, si j'avais eu une information, je suis sûr qu'il y en a au moins 15 ou 20 qui seraient venus sans aucun problème.
Ah bah, oui, justement.
Il y a Jean-Louis qui m'en a parlé, puisqu'il était avec toi. Il m'en a parlé, mais il dit, c'est fini, on l'a fait en face du circuit de Lezenne. Donc,
sur le centre d'examen de permis. Et bon, l'émission passera le 6 juin. Il y a aussi une reprise de guidon organisée par la FFMC. Bon, comme il y a aussi l'exposition de motos de caractère, etc., il y aura beaucoup de concurrence et je crains que ce soit un peu pareil, que les gens ne se rendent pas compte que c'est comme l'entraînement d'un sportif. Un sportif ne va pas s'amuser à attaquer la compétition, il va s'échauffer d'abord avant de vraiment attaquer. Et bon, ça c'était l'option reprise de guidon. Je voulais vous parler surtout de l'action de la FFMC 59 et 62, parce que là aussi c'est une information qui n'a pas forcément diffusé. Donc il y a une réunion du conseil d'administration le samedi 22 mai, à Neuf-Berquin, parce que justement la FFMC 59.
22 juin.
Non, 22 mai, c'est passé.
Ah d'accord, ça a eu lieu.
Non, justement, mais ça a fait le point sur les actions de la FFMC passées et à venir. Et donc maintenant la FFMC dispose d'un local 4 rue d'Esther à Neuf-Berquin qui est mis à la disposition de la FFMC par le maire de la ville qui est motard. Et effectivement. Ça permettra de mise en place de plusieurs occasions. Ça permet de stocker le matériel. Ça permettra de faire des rencontres nouveaux adhérents, etc., etc. Enfin, je ne vais pas vous faire la démonstration de l'utilité d'un local. C'est évident. Et donc, pour les actions, la FFMC a déjà entamé des commissions sur la sécurité et les infrastructures. Alors c'est toujours intéressant d'avoir des concertations avec les pouvoirs publics, parce que là c'est pareil, les pouvoirs publics, ils n'en ont rien à foutre des motards. Si on ne vient pas leur dire, vous savez, nous on est là, on a telle ou telle demande, on a telle ou telle exigence, Donc il y a des prises de contact qui sont déjà effectives avec Lille et avec le département. Mais bon, Lille, c'est pas tout le nord, donc il faudrait faire lancer ça sur Maubeuge, sur Dunkerque et surtout sur la Melle, qui est plutôt rétive, question avec les ayatollahs intégristes écolos qui existent là-bas, qui n'ont pas la lumière à tous les étages. Eux, ils ne voient qu'une seule chose, c'est faut faire du vélo. C'est bien joli, mais les banlieusards qui bossent d'une banlieue nord à une banlieue sud ou est ou ouest, ils sont obligés de passer par Lille. Et les ayatollahs veulent leur interdire l'accès à Lille. Bon, bah, c'est tout. On finira par boycotter Lille, si c'est ce qu'ils veulent. Après tout, c'est pas la peine d'aller là où on n'est pas désiré. Hein. Donc, il y a des actions à long terme aussi, qui est ma route en deux roues motorisées. Il y a des opérations qu'on a fait aussi, des opérations motardes un jour. Alors là, c'est, je vous dis le truc, c'est emmener justement des élus ou des techniciens des municipalités sur des motos pour leur faire rendre compte que, effectivement, leur ville, qui croyait si accueillante avec des pots de fleurs en plein milieu de la route, c'est un peu dangereux pour les motards.
Et surtout pour le pot de fleurs.
Oui, bien sûr. Et puis aussi, il y a un site pour signaler, là c'est le casque d'âne aussi de Moto Magazine. Oui. Les ralentisseurs illégaux, c'est toujours satisfaisant pour l'esprit.
Par contre, il y a vraiment des actions à faire là, sur les
dos
d'âne, hein, parce qu'il y en a certains, c'est même plus, c'est vraiment des catapultes.
C'est des assassinats prémédités. Hein.
Alors qu'il y a des normes.
Oui, justement. Il y a une politique de sécurité routière, c'est pareil, il faut absolument se rapprocher des autorités pour pouvoir... Mais si on le fait pas, c'est pareil, il n'y a plus qu'une seule chose, c'est la manifestation.
Oui, mais alors le problème des autorités, alors moi je vais t'expliquer un cas, ça rejoint ce que tu dis, quand tu prends contact, tu respectes la hiérarchie, etc., tu dis, je vais m'adresser à l'attaché de presse. Moi, j'ai pris un contact avec un dénommé Thibault Labu, qui est l'attaché de presse du président de la région. Il m'a demandé d'envoyer des mails, etc., programmer tout. J'ai envoyé, tu veux que je te dise, en un mois. Pas une réponse, rien du tout.
Je suis d'accord.
Pourtant, tu vois, tu respectes le truc, donc tu vas le court-circuiter. Mais c'est des gens qui ne te respectent pas non plus et qui te demandent de respecter le... Enfin, voilà, c'est... À un moment donné, il n'y a que la... Comment dire ? La confrontation, la violence,
de force.
Voilà, qui marche.
Mais le problème, c'est que tu ne peux pas travailler constamment en rapport de force parce que tu te déconsidères.
Bien sûr.
C'est comme le bruit des motos. Si on n'a pas un minimum d'autodiscipline, on va se faire ramasser par les ayatollahs écologistes.
Hein, il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Non, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que ça. y a aussi une action de prévention et d'éducation. La FFMC est en charge de l'ERJ, des stages de reprise de guidon. Par contre, les actions à venir, c'est plutôt le développement des relations avec les nouveaux adhérents. Alors là, c'est une bonne nouvelle, c'est que maintenant, le nombre d'adhérents à la FFMC 59 a dépassé les 100, on est à 114. Bon, mais quand on voit le nombre de motards dans le Nord, on se dit que y a un manque, mais par contre... C'est toujours pareil, pour faire du boulot, pour avoir des présences auprès des autorités et autres, il faut du monde. Et si malheureusement vous ne dévouez pas pour la cause commune, bien sûr, la moto, ça va être interdite sous peu, hein, faut pas se faire d'illusions. Alors donc, maintenant qu'on a un local, on pourra faire une maison des motards. Il y a aussi l'opération fête de la moto. Alors fête, c'est du verbe faire. Parce que, effectivement, c'est un plaisir, c'est une joie. Et bon, peu de gens semblent apprécier cette liberté qu'on a et qui est en passe d'être méchamment grignotée. Voilà, j'arrête là parce que, l'émission est déjà bien pleine, mais il y en aurait beaucoup à dire.
Mais n'hésite pas.
Je fais un appel à la solidarité, à l'inscription, parce que plus... La devise, c'est plus uni, plus fort. Et si on n'est que 4 pelés et 3 tondus, on ne pourra pas peser beaucoup sur la vie politique dans laquelle nous avons une
place. Tu te souviens ce que je dis depuis des années vis-à-vis du monde motard, tout en motard en général. Je rappelle quand même que le nord de la France, c'est 25% C'est 25% des motos de tout en France sur les 4,5 millions de grosses cylindrées. Il faut quand même le savoir.
On roule beaucoup plus dans le nord.
Bien sûr que partout. Mais c'est le principe, c'est battez-vous pour mes droits. C'est ça qui ne va pas.
Jean-Yves, une question. Le programme AFDM concernant les stages, comment vous sortez du confinement et quel est le programme pour 2021
le 20, à la fin du mois de juin, sur le site afdm.org, les stages sont affichés. On a quasiment 11 stagiaires inscrits déjà, parce qu'il y a tous les stagiaires en retard qui ont reporté leur inscription, évidemment. Et donc, mais le problème, c'est qu'on est actuellement, on n'a pas la possibilité technique de faire des stages de plus de 12 stagiaires. Okay. Bon, ils sont toujours très contents, mais c'est très utile pour eux parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des tas de choses qu'on leur a jamais appris, ni les copains motards, ni en auto-école. Mais bon, on essaie de rattraper le retard, mais c'est pas évident. Par contre, justement, un des intérêts de l'AFDM, c'est qu'on est on est reconnu d'utilité publique au niveau européen. Et nos contacts avec la DDTM notamment nous ont permis d'avoir accès au centre d'examen de permis de conduire et à leur piste. Donc ça permet d'avoir 12 stagiaires parce qu'il y a un immense terrain, on a toute la place que l'on veut. Et ça, c'est un atout à cultiver soigneusement parce que je me souviens de l'époque où on faisait ça sur un bout de route plus ou moins en clandestin. C'était pas extra.
Bon, très bien, j'arrive aussi dans le motomag de juin, il y a toujours le suivi du contrôle technique. C'est pas parce qu'on a fait deux manifs là, au mois d'avril que c'est terminé.
C'est pas terminé du tout.
Il faut absolument rester vigilant sur cette histoire-là.
Oui, c'est effectivement, pour l'instant c'est délayé. Et donc, il n'y a pas à se montrer trop offensif parce que de toute façon, pour l'instant, rien n'est fixé. Mais il faut continuer à surveiller le truc, comme le lait sur le feu.
Il va y avoir des élections à venir. Les régionales, ensuite les présidentielles. Bon, jusque-là, on va être tranquille.
Je vous encourage.
Mais après, pas forcément.
Je vous encourage à envoyer des mails et des lettres à vos députés en leur disant bien que le monde motard surveillera leurs actions et que ils sont élus, mais ils peuvent très bien ne plus l'être.
Jean-Yves, je ne veux pas être pessimiste. Je te dis, j'ai pris contact, et là, Emich le sait, avec un homme politique de haut niveau. Ils n'ont pas daigné répondre.
Oui, non, mais Donc, d'accord, mais
il n'y a que malheureusement l'affrontement. L'affrontement,
exactement.
Comme tu dis, pour vraiment se faire entendre ou écouter au moins.
Mais justement, il y a l'affrontement, mais il n'y a pas que l'affrontement.
Nous sommes force de proposition et non pas des révolutionnaires dans l'âme, ni des sanguinaires.
FFMC, la moto est une solution à la pollution et non pas l'inverse.
Très bien, on passe à un morceau de musique et on se retrouve juste après.
Gonna be here to pay. nobody ask around. Guess she don't miss it, she never shed a tear. It's a hell of a story nobody's ever gonna hear. The semi dog's gonna have his day. Then there's gonna be hell to pay. Too many times it seems the bad guys get away. Oh, not today. No, not today.
Voilà, alors ça donne un petit peu le ton hein, de ce qu'on va parler,
ah ouais.
Daniel.
Ah oui, enfin des bons sons.
Alors on va parler de custom, mais après le second morceau de musique. Mais là, on va parler d'abord de l'aftermarket, bon plan ou marge, confortable pour la marque. Et qui est gagnant dans l'histoire,
enfin. Oui, alors encore une fois, Christophe régulièrement nous fait part de la consommateur, nouveaux produits, etc., etc., avec beaucoup d'intérêt, puisqu'on a même vu des produits à 1 euro, ce qui est bien. Alors... le mois dernier, j'ai construit ma moto en prenant tous les éléments pour faire une moto très haut de gamme et j'arrivais à 17 595 euros pour un très haut de gamme, fait sur mesure, avec le top du matériel existant sur le marché. Et là, j'ai fait à peu près le même parallèle entre les produits de marque, c'est-à-dire labellisés poète-poète, machin, patin, couffin. Et j'ai regardé par exemple les blousons de cuir, hein, homologués CE. Et j'ai regardé, bien sûr, comme tout le monde, les étiquettes. Alors je me suis dit, des hauts de gamme entre 780 euros et 1700 euros, ça doit être du top niveau, fabriqué dans un pays à forte valeur ajoutée, comme les États-Unis, la France, l'Angleterre, je ne sais où. Et puis, ben, en cherchant un petit peu, avec les codes-barres, je me suis rendu compte que c'était du Made in Pakistan, Made in Vietnam, Inde, en gros. Et je me suis dit, mais comment c'est possible de vendre des produits aussi chers alors que l'avantage compétitif n'est pas supérieur à une marque française ou européenne qui vend, pour qui c'est véritablement le métier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font de la poterie, qui font dont le métier c'est de fabriquer que des blousons, des pantalons ou des gants de moto, avec des technologies résistant à l'abrasion, à la sécurité pour la morphologie, etc., etc. Et tu dis, bon, ben, je vais mettre en phase ces produits usage identique et le produit varie de 1 à 3. Le prix de vente varie de 1 à 3. Donc, en tant que consommateur à peu près éclairé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui pousse le fait de se balader avec une pancarte publicitaire dans le dos ou sur les manches que tu vas payer 2 à 3 fois plus cher par rapport à un vrai produit développé pour l'usage de la moto? Alors, une fois que tu as dit ça en tant que consommateur, on te dit « oui, mais attends, t'es pas dans le move, t'es pas machin, t'es pas ceci ». Ben non, moi je suis pas payé pour porter une marque. Ou alors, si on est porte-drapeau d'une marque, et quelle que soit la marque, il faut que la marque nous rétribue d'une manière ou d'une autre, de manière à pouvoir véhiculer son image de marque. Sinon, c'est ce qu'on appelle... Je ne le dirai pas parce que ça va être vulgaire, mais on va rester quand même correct. Nous sommes des gens corrects, mais c'est quelque part un petit peu d'abus. Alors c'est vrai qu'on pourrait faire le pendant avec des marques de sport, mais à la différence, c'est que les marques de sport n'ont pas pour vocation de te vendre autre chose qu'un usage avéré dans leur domaine de prédilection. C'est-à-dire que si tu prends une marque avec 3 bandes, ils sont parfaitement, je dirais, dans leurs normes, parce qu'ils apportent des technologies, etc., etc. Mais quand tu compares deux choses comparables en termes d'usage et que le prix va de 1 à 3, ça pose un vrai problème. Et c'est sûr que ça peut être flatteur de dire, ben voilà, j'ai vu telle star se balader avec le blouson, donc c'est le blouson qu'il me faut.
C'est ressembler à la star ou je sais pas moi.
Exactement, mais tu le dis, c'est ce qu'on appelle du marketing de frustration.
C'est comme tous les gamins qui se baladent avec le crâne rasé parce que ces connards de footballeurs, ils ont le crâne rasé.
Ouais, puis ça coûte moins cher au niveau peigne.
Les rappeurs.
Donc, Moi, je me suis dit qu'à un moment donné...
Identifier, justement. C'est pour ça que les stars portent les couleurs de certains fabricants de vêtements.
Ils se font payer.
Oui, mais voilà. Mais eux, ils sont payés pour porter ces vêtements.
Alors, moi, je veux... Le numéro 10.
Et après, bah, tout le monde veut ressembler à ces...
Voilà.
46.
Bah, mais
aux idoles. Oui, bah, c'est exactement.
Pour, oui, pour Rossi.
Bah, on va rester dans la moto. Hein.
Rossi,
46, le numéro 46.
Rossi.
C'est quoi, c'est quand tu portes un t-shirt 46 ou... Bah, d'ailleurs, moi, je vais regarder vos t-shirts aujourd'hui, là. Voilà. Je suis désolé. Hein,
chacun affiche ses couleurs.
Vous avez tous des couleurs sur vos maillots.
Moi, c'est du no-name.
Voilà. Non, mais je veux dire. Alors, en 46, effectivement, après. Il y a des tas de marques. Hein,
mais on est d'accord. Mais encore une fois, l'identification de la marque, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais tu sais que le bon goût, c'est la discrétion et la qualité. Mais pourquoi? Ok, tu portes une marque, tu t'identifies à telle star, mais. Au nom de quoi la star se fait payer en centaines de milliers d'euros et toi, couillon, tu vas payer 3 ou 4 fois plus cher ton produit. Attends, à un moment donné, il faut réfléchir. Quel est l'avantage compétitif
pour porter les couleurs de la star?
Oui.
Ça coûte cher.
On est d'accord.
C'est pour ça, voilà. On tu payes cher ton maillot pour pouvoir...
J'illustre. Parce que la star, malheureusement, elle peut ne plus être de ce monde. C'est le cas de Steve McQueen. Ouais. Et donc, là, ils viennent de sortir
mais ça, c'est la famille.
La Scrambler, la Grande Évasion. 2000 euros de plus que le modèle... 1000 exemplaires, le sentiment de frustration.
Mais oui.
Je la veux.
Exactement.
1000 exemplaires pour le monde.
Alors que ça n'a strictement rien à voir avec la moto de Steve McQueen dans le film qui n'était même pas une Triumph.
Oui, en plus.
Mais elle est signée du patron de Triumph. Et du fils de.
Non, mais.
C'est la revival, les Tragline. Hein, 1500 exemplaires. Et puis 31 000, hein,
oui, 31 000 euros. Hein. Les 125 Indian pour les 125 ans, c'est pareil.
Voilà. Non, mais alors tout ça pour dire qu'on arrive dans un monde de délire où je crois qu'on doit revenir sur du bon sens commun. Il faut qu'on se fasse plaisir. Il faut qu'on ait le maximum de sécurité, etc., etc. On est d'accord. Mais à un moment donné, il faut réfléchir à. Je dirais au pouvoir d'achat. Pourquoi ? C'est vrai que tous les motards, puisqu'on est dans un monde motard, sont tous extrêmement riches, extrêmement bien payés. Ils sont tous assujettis à l'ISF. On est d'accord, même s'il était supprimé, mais il y a d'autres cas. On est d'accord.
Levez le doigt.
Mais à un moment donné.
Donc on n'a plus le droit de mettre les t-shirts Triumph.
Mais on met ce qu'on veut. On met ce qu'on.
Voilà.
Mais attends, on met ce qu'on veut à partir du moment.
Harley Davidson, Indian.
Moi j'en ai pas. Mais je refuse d'être porte-drapeau ou alors on me le paye. Oui. Mais à un moment donné, il faut être raisonnable. Si ta marque préférée est au même niveau que le leader sur son marché qui n'est pas un fabricant de motos, ok, tu t'identifies, t'as la panoplie complète, ok, mais à prix équivalent et à qualité équivalente. Sinon, quand t'as des produits en qualité inférieure ou te payes 3 ou 4 fois plus cher, là, mec, tu t'es fait, comment dire,
oui, donc t'as le droit de porter des t-shirts si t'as pas payé cher. Si tu trouves que
c'est un
bon prix, c'est beau et c'est un bon prix, il n'y a
pas
de problème.
Tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'on appelle le bon sens.
Le bon sens.
Bah, tout simplement.
Oui, non, tu m'as fait peur parce que là j'allais rentrer chez moi, j'allais balancer 95% de ma garde-robe. Hein, parce que si on a plus le droit de porter les t-shirts avec les marques,
souvenez-vous justement. Ouais,
tu me rassures.
La campagne contre les fringues, actuellement ces tordus d'intégristes là, veulent faire une campagne, n'achetez plus de fringues. Donc, moralité, t'as plus le droit de t'habiller comme tu veux.
Il faut se balader cul nu, ça c'est bon. Non, mais on t'a dit que la moto est
un réemploi.
Tout à l'heure, l'affichiste disait que la moto, c'est un élément à fort potentiel érotique et sensuel. On est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bien évidemment, on doit porter ce qu'on a envie de porter avec son look, etc. Parce qu'on est attiré par quelque chose. Mais à condition que l'avantage compétitif soit réel. Mais si on te vend de la merde au prix du caviar, à un moment donné, faut réfléchir, c'est tout. Comme disait Jean-Yves tout à l'heure, on te vend un produit qui fait papa-maman, qui améliore la moto, et c'est une grosse arnaque parce que c'est juste une résistance.
Ouais. Toi, tu mets pas un couteau sous la gorge pour que tu l'achètes. Hein.
Bah voilà.
C'est toi qui décides.
Non, mais le problème, c'est.
Voilà.
Que
non, non.
C'est simplement que c'est une image qui est dans ton cerveau et qui imagine que quand tu vas acheter ça.
Il y a un manque.
Alors, ça, c'est un petit peu le côté.
D'éducation, simplement.
Un peu comme la drogue ou l'alcool ou la cigarette.
Addictif.
L'addictif. Hein.
Oui, c'est tout
ça.
À fait.
C'est ce côté-là du cerveau. Hein.
Mais c'est beaucoup plus vicieux, ça. C'est-à-dire que là, on parlait d'Harley tout à l'heure, puisque j'ai fait la photo de la Revival, je vous l'ai montré, à 31 000, plus la préparation. À 35-36 000 euros. Mais tu vends quoi? Parce qu'on te dit, Elvis Presley avait cette moto.
C'est ça. Oui.
Donc, Mais ben non, d'une pipe.
C'est comme la Triumph, c'est Steve McQueen qui avait la moto.
Moi, je chante
dans la Grande Évasion.
Je chante dans ma
c'était
salle
pas
de bain.
Du tout. C'était
je
pas...
dois acheter l'équivalent de ce qu'avait Elvis. Ouais. Mais toute proportion gardée, quand tu regardes ce que c'est, honnêtement, tu retires le cosmétique, c'est une moto on ne peut plus standard. Donc moi, ce que j'appelle les gens, c'est à faire preuve de discernement, c'est tout.
Oui, mais écoute, c'est un problème d'éducation, parce que justement, ils n'ont aucune éducation mécanique, et donc ils se font entuber par un produit dont ils ne savent même pas comment ça marche.
Et pour terminer, je rappelle quand même que l'aftermarket, enfin tout ce qui est après la moto, c'est en moyenne entre 30 et 35% de l'achat.
Bon, Daniel, on va parler pour cette dernière séquence là, les avalanches de l'avalanche de Custom en 2021. Alors,
oui.
HD, Harley Davidson, Indian, Honda, Yamaha aussi.
Oui, tout à fait. Alors, on en parle souvent entre nous. Il y a un phénomène de répression qui est terrible vis-à-vis du deux roues motorisées, et ça, c'est pas une litote, c'est du vécu pour tout à chacun. Et on sait qu'Arlé est dans l'œil du cyclone depuis un bout de temps. Je sais que, et on sait tous, que toutes ces motos à partir du 1er juin vont être taxées à hauteur quasiment de 35%. Bon, tu me diras d'un autre côté, compte tenu des problèmes, pour le moment, il n'y a pas de moto en concession, comme ça on est tranquille. Mais Harley vient de ressortir ce qu'on appelle Revival, enfin Revival si vous voulez, qui est quelque part le clone de la moto qu'Alvis avait il y a quelques années, quelques dizaines d'années, et qui est une très jolie moto, il faut reconnaître, qui est bleu, un bleu métal et blanc un petit peu ivoire. Très, oui. Très belle moto, honnêtement, très très belle moto pour les gens qui veulent surfer un petit peu sur la nostalgie passée. Et bah voilà, c'est celle-là. Et bon, effectivement, le bout est à 31 000 euros, plus la petite préparation qui va bien. On estime qu'à 35 000 euros, elle serait à peu près opérationnelle. C'est une belle moto. Et Harley, je crois, pour compenser un tout petit peu leurs errements managériaux, on va dire ça comme ça, parce qu'il faut dire qu'ils se sont ramassés dans la grande longueur, vont sortir tous les 6 mois une nouvelle moto, une moto légende, c'est leur série Revival ou Revival si vous voulez, en sortant des motos qui ont été illustrées par des stars, par des motos iconiques. Par contre, j'ai la Michon, on en a parlé tout à l'heure, on va essayer la Pan American, hein, l'espèce de gros trail. Moi j'ai lu sur tous les essais américains, le moteur est assez étonnant, c'est une moto assez étonnante. Pour le coup, à peu près bien positionné, parce que si je ne m'abuse, ça commence aux alentours de 16 900, enfin 17 000 euros, jusqu'à à peu près 22 000 euros pour le truc le plus abouti. On va l'essayer donc ce week-end.
Par contre, vu de face, hein, c'est pas terrible. Hein.
Ça fait un peu char d'assaut.
Ouais. Non, ça fait poubelle grise de la rue lilloise.
Oui, mais
c'est au carré,
présentation dans Motomag, oui, de juin, oui, j'en ai pas parlé, oui, mais là, oui, c'est
cherche la page.
Découpé à la hache.
Ah oui, 64.
Mais bon, après, bah, effectivement, t'as raison. Hein. Au niveau moteur, peut-être que c'est bien. Hein.
Oui, oui, alors, le moteur est très bien. Ouais. Alors, honnêtement, à l'unanimité, enfin, tous les gens qui ont essayé aux États-Unis sur longue distance, etc., c'est assez bluffant. Et j'ai vu une moto, alors, dont le nom n'est pas encore complètement sorti, qui va être quelque part le contre-type de ce qu'on a connu avec les V-Rod, motomuscle, n'ayons pas peur des mots, avec un truc comme plus de 150 chevaux pour 210-215 kilos. J'ai vu l'essai, j'ai vu la ligne, c'est exceptionnel et qui sera positionné aux alentours de 17 000 euros en France avant, hélas, la taxe des 35% qui va nous tomber dessus au 1er juin. Donc, il nous tombe dessus.
Tous les produits qui vont venir, enfin, tout au moins les motos déjà.
Les motos
qui vont arriver d'Amérique, c'est 35% en plus. Et ça, ces 35% vont être reportés sur le prix.
Ah, mais bien sûr, bah attends.
Ou alors, c'est les constructeurs qui vont essayer de rogner leur marge.
Attends, la taxe était de plus de 50%.
C'était prévu. Oui.
C'était 6 plus 25 plus 25. Donc voilà. 56, t'as raison.
56.
Mais ils vont lisser pour éventuellement faire passer que 35%. Alors, si c'est ça, moi je peux vous assurer que les motos américaines vont prendre un coup dans les dents. D'un autre côté, il n'y a pas de stock. Bon, donc.
Et puis, Indian fabrique en Pologne.
Et alors, justement, ils vont être construits en Thaïlande. Ils vont délocaliser leur production.
Mais
et
non, non,
ça marche pas.
Mais non, ça ne va pas. Parce que Harley, qui voulait fabriquer délocalisé en Inde, la street, etc. Oui. C'est fini, il a tout rapatrié, c'est fini.
Mais oui, Biden, il ne veut plus.
Non, c'est fini. Ben, Trump ne voulait plus déjà, donc ils vont réindustrialiser leur production. Donc, tout ça pour dire que, oui, il y a une foultitude de motos qui arrivent. Par exemple, Indian, qui a pris le marché en cours et qui s'est engouffré dans la brèche laissée par Harley avec les Sportsters, vient de sortir trois modèles, la Chief, la Bobber et la Chief Limited. Et honnêtement, ce sont de belles motos avec un très très bon moteur que je connais, le 116, donc beau couple, etc. Et positionné au niveau prix entre 18 et 25 000 euros, on va dire. Bon, ça reste très cher, mais c'est quand même pas mal pour c'est de belles motos avec un cadre un petit peu comme les Goose de chez Santis et compagnie. C'est pas mal, un petit réservoir. C'est de la belle mécanique, c'est de la belle moto, gros couple. Bon, toujours trop cher selon moi, mais bon, j'espère qu'ils ne vont pas subir les foudres fiscales, parce qu'à ce moment-là, ça va devenir complètement délirant. Mais ce sont vraiment, je trouve que c'est de belles motos, parce qu'ils sont contenus, ça c'est important, au niveau poids. Ils ont un rapport poids-puissance très intéressant, et ce sont de belles motos.
Pour sortir de ces marques américaines, on parlait de la R18, qui allait être relookée.
Ah non, non, non.
C'est la troisième version.
Non, non, pas relookée. C'est-à-dire qu'il...
Donc la R18, hein, on ne parle pas de la bagnole, on parle de
la BM. La BM. Non, et sur la même plateforme, donc il y avait la première qui ont sorti, ouais. Et là, il vient de sortir la classique, ouais. Qui est l'équivalent du Softail Heritage, donc avec un pare-brise, valoche cuir.
Bah, ils sont enfin rendus compte que la clientèle BM se déroule toujours en couple et qu'il faut de l'emport de bagages, faut que ce soit confortable, etc.
Voilà.
Et
là,
ils avaient complètement déserté.
C'était la même erreur que c'est curieux. BM refait la même erreur qu'avec le R12 NC.
Oui,
parce que c'est pas la client. Ils ont voulu faire leur custom et là c'était pareil.
Et oui, que Triumph fait avec la GT, voilà. qui n'a qu'à faire.
Ceci étant, je n'ai pas essayé la classique, j'ai essayé la R18 normale. C'est franchement, je le répète, au niveau. C'est du vrai premium, il n'y a aucun souci. La classique, je vais la voir la semaine prochaine si je ne m'abuse. C'est pas mal. Bon, je trouve que le niveau positionnement, c'est toujours trop cher à mon avis. Mais. Ils ont compensé le manque de confort de la normale, là, je ne sais plus comment ils l'appellent, la Limited, je crois, avec une selle qui tient un petit peu plus la route parce que vraiment d'origine, au bout de 50 bornes, t'as vraiment mal au cul. Et donc là, c'est quand même pas mal avec un beau moteur, un peu compliqué, mais comme chez BMW tout à l'heure, Christophe parlait de la 1250 GS. C'est des 95 chevaux, je crois, ou 91-95. Mais tu n'as pas cette sensation, malgré les trois modes de conduite. C'est très lisse. C'est très lisse et ça manque un peu de caractère, mais c'est BMW.
Ça t'introduit aux motos électriques. T'as des motos sans caractère. Donc
on en est pas loin.
La clientèle sera habituée quand elle passera à l'électrique.
Donc, mais c'est quand même vraiment du bel ouvrage. Et le prix... à mon avis, se justifie un petit peu mieux parce que la qualité des matériaux, traitement de surface, etc., c'est quand même quelque chose d'assez étonnant.
Alors, tu mettais Honda et Yamaha.
Alors, Honda, oui, qui, après des errements aussi dans son passé, est revenu sur la 1100 Rebelle. Je crois que Christophe a fait un petit sujet sur la 500, je crois, il y a quelques temps. Là, c'est la 1100. Et qui, pour moins de 10 000 euros, offre tout ce qu'on peut aimer sur un custom, la position, le moteur, les watts, ça tient le parquet, ça freine, ça a de la gueule, et c'est accessible au plus grand nombre. Et ça, je trouve que pour démocratiser la moto, sans se prendre la tête, sans avoir un truc qui fait 200 chevaux, etc., c'est un bon moyen d'accéder au monde du custom en se faisant plaisir avec une moto valorisante. Et coup de chapeau Honda qui est capable de se remettre en cause et puis de surfer sur la mode, je suis désolé.
Très bien, Daniel, on passe aux infos.
Attends, et non. Puis il ne faut pas oublier, parce qu'il y en a une qu'on oublie, c'est Yamaha avec sa Bolt,
oui.
Qui ont optimisé et qui a vraiment, vraiment beaucoup de gueule. Très honnêtement, c'est aussi une moto qui n'est pas très chère.
Et au niveau prix,
on est toujours dans moins de 10 000 euros, aux alentours de 9 000 euros. Et c'est vraiment.
Ah oui, bah attends, là, c'est bien ça.
Ah, bah, par rapport à nos motos américaines à 30 000 euros, oui, c'est sûr que c'est trois fois moins.
Elle est encore au catalogue ?
Oui.
Oui.
Oui, oui. Ils viennent de sortir un tout nouveau modèle, ils ont upgradé, c'est vraiment bien.
Très bien, voilà, ça c'est donc l'avalanche de Custom en 2021. Ouais. On passe à l'info du Custom Village.
Oui, alors Custom Village.
Et le repas du 11 juin.
Voilà, le Custom Village.
Et ses repas, donc plusieurs repas là.
Oui, on va déjà commencer par le 11 juin, où on fait une grande pasta fiesta, festa de la pâte, bolognaise, etc. Voilà, avec tous nos amis, petits concerts entre nous, en respectant bien sûr les règles en vigueur au niveau hygiène et sécurité, bien sûr. Mais oui, on reprend contact, parce qu'on a profité donc de cette période difficile pour tout le monde, pour remettre à niveau, on a refait le look, on a fait des gros travaux, insonorisation, isolation, déco, très jolie barre, vous verrez, qui fait pratiquement 9 mètres de long, éclairage, voilà. Donc, on est prêt pour accueillir nos amis parce qu'on a énormément de demandes et on va être opérationnel dès le 11 juin pour accueillir nos amis comme il se faut, comme il se doit.
Bon. Et on rappelle où c'est, à Bercé.
312 rue du Bar, BAR 59-235, Bercé.
Le seul hic, c'est qu'il n'y a pas de panneau du nom de la rue. Ah.
Bah voilà, GPS, ça sert, tu vois.
Bah voilà,
ça fait randonner un peu.
Alors il vaut mieux y aller. Il vaut mieux y aller la journée, hein.
Oui, parce que
la nuit. Deux jours, je veux dire.
Oui.
Que de nuit.
Parce que de nuit, bah d'abord, on est limité à 21h.
On passe la nuit à chercher. Hein.
On passe la nuit à chercher, voilà.
Mais c'est... Oui, mais bon, c'est ce qui fait le charme. C'est un petit peu.
Alors c'est curieux parce que tu passes 10 fois en face, hein. Tu dis, mais tu vois pas.
C'est bien insonorisé.
Voilà. Oui, c'est ça. Voilà.
Mais tu dis, par contre, maintenant, il y a des grands kakémonos, il y a des grands panneaux partout.
Ah bah, donc voilà.
On s'est amélioré.
Eh bien écoute, très bien, bon, on sera là, le 11 juin, c'est vendredi, non ? C'est vendredi, ouais ? Très bien, ok, très bien.
Eh bien,
voilà.
Bon, bah écoutez, nous, Moto Magazine, on vous dit bye bye, hein, parce qu'on se reverra pas début juillet.
Ah, sans doute, peut-être, peut-être octobre. Hein, voilà.
Oh là, ça fait loin. Hein. Donc ça d'ici sera... là, bah, vous voulez bien.
Oui, alors peut-être on recommencera fin septembre les émissions, mais ce sera pas pour vous.
Profitez du hors-série hein, Moto Magazine consacré aux plus belles routes de France.
Oui, parce qu'au juillet août, c'est double. Hein.
Voilà, absolument.
Double. Pour les deux mois.
Et puis nous, on a testé, on est allé en relais motard il y a un mois à peu près. Donc je fais un petit coup de pub, là, l'hostellerie du Centre Hôtel. Hein, pour 90 euros, vous avez une chambre de 4 avec sauna, hammam, spa, gratuit et garage pour 4 motos.
Et garage pour les motos.
Bon, c'est pas mal. Hein. Ouais. Et ça, c'est à Montaro, l'hostellerie du Centre Hôtel.
Ouais. On a testé pour vous.
Ouais.
Là, on peut vous dire que
c'est bien.
On y a mis notre personne.
Et ce week-end, l'ami, on teste, nous, des motos.
Oui, hein. Ok, on teste les motos. Bah, merci Daniel et puis merci Jean-Yves. Hein,
pour bonnes vacances à toutes.
Ouais, moi aussi, je vous souhaite toutes des vacances et puis et plein d'aventures. On se retrouve donc en octobre.
Faites-vous plaisir, soyez prudents surtout.
Voilà. Merci Laurent pour cette technique au millimètre.
Merci Laurent.
Merci Laurent.